nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Focus braque son projecteur aujourd'hui sur les leçons inaugurales des ponts et chaussées pour la rentrée 2009. Connue pour sa formation d'ingénieur, l'école des ponts ParisTech, c'est son nom aujourd'hui, s'est transformée au fil des ans en une entreprise globale de formation fréquentée chaque année par plus de 1700 étudiants. Alors ces leçons inaugurales de la première année pour les élèves ingénieurs se déroulent les 27, 28 et du 2 au 4 septembre 2009 inclus. Pas besoin d'être étudiant pour venir écouter ces conférences, elles sont toutes ouvertes au public et parmi les intervenants, il y a Jean Salençon, président de l'Académie des sciences pour deux ans, 2009-2010. Jean Salençon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous allez pouvoir nous présenter les grandes lignes de votre conférence intitulée « Des enjeux énergétiques réalistes pour les prochaines décennies ». Alors, donner la première conférence inaugurale semblait être évident puisque vous êtes ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées, professeur honoraire à l'École Polytechnique et à l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Vous y avez fait donc une grande partie de votre carrière. Pourquoi avoir fait le choix de vous intéresser aux enjeux énergétiques, Jean Salençon ?
C'est un sujet que j'ai choisi alors que je revenais d'une réunion, d'une conférence de deux jours qui s'est tenue à Rome et qui rassemblait les présidents des académies des sciences des pays du G8 et du G8+5. Et dans cette réunion... L'un des thèmes, il y en avait en fait deux, l'un des thèmes était les nouvelles technologies pour l'énergie, qui ensuite s'est transformé en changement climatique et nouvelles technologies pour l'énergie.
Alors, nous allons développer un peu cette question-là. Citons également les interventions d'Alain Prochiantz, professeur au Collège de France, qui a intitulé sa conférence « Machine-Esprit ». C'est un confrère à vous, confrère académicien. Également Emmanuel Rosenscher, Michel Reguidel et Yves Jeanneret, pour citer donc les noms des autres intervenants qui participent aussi à ces leçons inaugurales. Alors, développons un peu la question de ces énergies renouvelables. Quels sont les différents niveaux d'énergie renouvelable que vous avez pu différencier en préparant cette conférence?
Je voudrais à la limite parler d'abord des énergies fossiles avant de parler des énergies renouvelables. Parce qu'en fait, ce qui est ressorti à la fois des réunions des académies du G8+5, puis qui est apparu dans les déclarations du G8 et du G8+5, c'est que la solution pour les décennies à venir sera simplement ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire que toutes les formes d'énergie seront mises à contribution. Et parmi celles-ci, de façon inévitable, les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, et l'énergie nucléaire, en face desquelles on trouvera les énergies renouvelables.
Vous parliez du G8 et du G5 à Rome. Parmi les interventions, il y a l'Académie des sciences de Chine. Et c'est surprenant, peut-être pour nous, de voir que l'Académie de Chine s'intéresse beaucoup à ces notions de développement durable, d'énergie renouvelable, fossile, mais aussi renouvelable.
Alors, c'est peut-être surprenant. Je peux dire que le président de l'Académie des sciences de Chine était lui-même présent en personne à cette réunion et a fait une présentation qui m'a été, en tous les cas pour moi, très intéressante, très instructive. Et il a abordé tous les problèmes énergétiques de la Chine pour les décennies à venir et a notamment fait état de la politique volontariste de la Chine dans le domaine de la conservation de l'énergie, puisqu'une loi a été promulguée le 1er avril 2008 dans ce domaine.
Donc qui concerne la conservation de l'énergie récente dans le cadre des équipements industriels.
Alors, dans le même temps, effectivement, la Chine entend moderniser, restructurer ses équipements industriels. Et on peut citer typiquement, bien entendu, ses centrales électriques, centrales thermiques, mais aussi ses hauts fourneaux et ses cimenteries.
Pour la Chine, vous m'expliquiez en préparant cette émission qu'il y avait quand même quelques 50 000 km d'autoroutes et 5 000 km d'autoroutes créées donc chaque année en Chine. Donc ça veut dire que la question du mix énergétique, il y aura quand même encore le pétrole qui sera bien présent.
Tout à fait. Dans les consommations énergétiques, évidemment, on a souvent tendance à penser à l'électricité, aux usages dans nos pays. On met en cause, et on, à juste titre, les moyens de transport, l'évolution des moyens de transport. Si l'on considère la Chine, un pays qui n'avait pas d'autoroute, compte maintenant 50 000 km d'autoroute, effectivement, construit 5 000 km par an, ce qui veut dire que le développement économique de la Chine va se baser, se fonder sur le transport routier. Ce qui veut dire qu'il sera nécessaire d'avoir, pas nécessairement, vous avez dit, les produits pétroliers, ils pourront être substitués par des produits de substitution tels que du biodiesel, par exemple.
Alors, on parle de la Chine qui fait partie des pays émergents. Est-ce que les problématiques sont différentes selon qu'on appartient à un pays en voie de développement, un pays émergent ou alors les pays, on va dire, pays riches ?
Alors, on va prendre effectivement trois types de pays. Pour les pays émergents, on peut considérer outre la Chine, l'Afrique du Sud. Nous avons eu des informations sur l'Afrique du Sud. De la même façon, pour l'Afrique du Sud, on aura un mix énergétique qui se base sur le charbon, sur le nucléaire et sur les biocarburants notamment. Autre pays émergent, le Brésil. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer beaucoup sur ce cas-là. On connaît l'importance du bioéthanol dans ce pays. Donc là, voilà une problématique. La problématique des pays qui sont vraiment en développement apparaît très clairement lorsque l'on considère une courbe qui nous a été d'ailleurs fournie par le président de l'Académie des sciences d'Afrique du Sud, qui nous montre simplement en fonction de la consommation d'électricité par habitant et par an, un certain indice de développement humain. Et l'on voit que pour des pays comme le Niger, comme la Zambie, inéluctablement, la consommation énergétique devra augmenter pour accompagner le développement du pays. En revanche, pour les pays développés, cette même courbe montre que nous atteignons une sorte de plateau et que ce qui s'imposera, c'est la stabilisation de la consommation énergétique, sans doute déjà par une meilleure utilisation de l'énergie. Et voilà.
Alors, meilleure utilisation de l'énergie, on a bien compris, économie d'énergie, ne serait-ce que dans son habitation. Mais parlons des transports, puisque bien sûr, quand on parle d'énergie, on pense à nos voitures, système autoroute pour la Chine, comme on en parlait il y a quelques instants. Avec la consommation du pétrole, qui, on le sait bien, est une énergie qui ne sera pas forcément disponible jusqu'en 2050, il y a toute une remise en cause du système économique qui va découler de ces manques. Charbon, pétrole et gaz.
Oui, alors effectivement, vous posez une question intéressante, importante. C'est que nous avons des modèles microéconomiques simplementaires au niveau des entreprises qui vont être remis en cause parce qu'ils étaient fondés sur un bas coût de l'énergie et la non-prise en compte du coût social et environnemental. Je pense par exemple au concept de juste à temps, qui devra être, comme l'on dit, revisité à tout le moins.
Vous parlez aussi, on préparait cette émission, vous parliez aussi de l'intérêt de travailler sur le transport énergétique. On parle de transport, mais il y a aussi le transport énergétique. Vous pourriez nous en parler un peu plus ?
Ne pas oublier que le transport de l'énergie en lui-même consomme de l'énergie. On peut prendre certains exemples, le transport du gaz naturel liquéfié par exemple, le transport du pétrole dans les pipelines nécessite de l'énergie, le transport de l'électricité. Et donc une recherche intéressante, utile, est évidemment de rechercher les moyens de réduire le coût énergétique de ce transport de l'énergie en lui-même.
Alors, venons-en au marché de l'énergie. Restons dans le domaine de l'économie. Il y a une demande à trois niveaux. Vous allez pouvoir nous détailler ces trois niveaux. Donc, c'était la question que je vous posais au début, et donc nous pouvons y revenir. Donc, demande à trois niveaux, à savoir une demande de base, une demande vis-à-vis des variations par rapport à la demande de base, et puis celle que vous appelez celle du lendemain. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspondent ces trois niveaux ?
Oui, c'est une... Effectivement, ces trois niveaux servent d'ailleurs à expliquer aussi la nécessité du mix énergétique que j'évoquais au début. On va se placer dans un contexte d'économie dérégulée, même si ce n'est pas nécessairement le modèle idéal. Mais c'est le plus clair. Et on se met à la place d'un gestionnaire de réseau qui est chargé de fournir de l'électricité. Il se trouve en face de deux types de demandes. Une première demande qui est la demande de base. La demande de base, c'est la demande dont il sait qu'il ne descendra jamais au-dessous de ce niveau-là. Alors pour cette demande de base, il va passer des contrats à long terme et cette demande de base va être assurée en règle générale par de grosses centrales thermiques, par des centrales nucléaires, par des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, et puis dans certains pays, je pense au Brésil par exemple, par des barrages hydroéléctriques, il s'agit de gros barrages tels que le barrage d'Itaipu. Donc là, nous avons la demande de base. Le deuxième niveau de demande, c'est celui qui correspond aux variations par rapport à la demande de base. Et là, pour la mise en réseau de capacités de production supplémentaires, on va faire appel à deux types de contrats. On va avoir des contrats qui vont être des contrats de type call, c'est-à-dire que le gestionnaire de réseau, le producteur, le fournisseur plus exactement, va passer un contrat avec un producteur d'énergie pour avoir le droit, la possibilité de lui demander de fournir de l'énergie jusqu'à tel niveau dans le futur. Donc c'est une puissance convenue pour laquelle chacun s'engage. Alors cette puissance, elle va encore être apportée par des centrales thermiques, par des barrages, parce que là c'est vraiment le rôle des barrages. C'est un peu ce qu'on peut appeler passer les pointes aussi. Et puis d'autre part, on va rencontrer ce qu'on appellera des contrats au jour le jour, c'est-à-dire des contrats pour le lendemain. Et c'est sur ces contrats pour le lendemain, qui sont d'ailleurs à des prix élevés, que les énergies renouvelables, dans ce type de marché, se placent le mieux, parce que les énergies renouvelables sont pour l'essentiel des énergies caractérisées par leur intermittence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir leur disponibilité dans un avenir, dans un futur relativement lointain. On peut, en règle générale, la garantir pour le lendemain. Donc voilà les trois niveaux de demande, et ce qui explique aussi la nécessité de ce mix énergétique.
Un mix énergétique. Précisons qu'en France, 80% de l'énergie électrique est d'origine nucléaire et que depuis, je crois, 2 ans, la France est dans l'obligation d'avoir sur son énergie, sur l'ensemble de son énergie, donc pas forcément uniquement électrique, mais sur l'ensemble de son énergie, 20% qui provient d'énergie renouvelable.
Oui, pour ce qui est des énergies renouvelables, la France, pour ces énergies renouvelables, dispose de ces équipements hydrauliques qui ne font évidemment pas les 20% oui. du total.
On arrive au maximum, j'imagine, en ce qui concerne
les barrages. On peut dire que l'essentiel des sites est équipé. Évidemment, si on réécrit l'histoire, on pourrait dire que peut-être que ces sites n'ont pas tous été équipés au maximum de leur capacité, tout simplement pour des raisons de calcul économique faites à l'époque, mais cela ne change rien au fait que l'essentiel des sites est actuellement occupé. Donc, de ce point de vue-là, on est au maximum, et l'obligation que vous mentionniez est certainement une des raisons du développement de l'énergie éolienne, des fermes éoliennes que l'on voit, et des contrats qui ont été passés, qui ont été signés par diverses compagnies dans ce domaine.
L'énergie éolienne qui a pour particularité de ne pas être efficace tous les jours. Donc ça représente 25% d'efficacité.
Alors c'est effectivement, mais elle n'est pas la seule d'ailleurs à avoir ce facteur d'efficacité énergétique de 25%. Le photovoltaïque lui aussi ne fonctionne que s'il y a du soleil. C'est un peu bête à dire, mais c'est vrai. Et les éoliennes ne fonctionnent que s'il y a du vent et s'il n'y a pas trop de vent, puisque s'il y a trop de vent, évidemment, actuellement, on les met, comme l'on dit, en rideau, ou en drapeau, plus exactement. On les met en drapeau. Il faut signaler qu'à ma connaissance, une nouvelle génération d'éoliennes est en construction, sinon existe déjà, qui serait capable d'accepter des vents de 150 km/h, mais je ne m'avance pas plus sur ce point.
Une autre énergie renouvelable, c'est la géothermie, sur laquelle pourraient se poursuivre des recherches.
Alors, la géothermie, effectivement, c'est la seule énergie renouvelable qui n'utilise pas l'énergie solaire. Parce que si vous réfléchissez, toutes les autres sont à base d'énergie solaire sous une forme ou sous une autre. La géothermie, classiquement, on pense à l'Islande. c'est-à-dire une zone de grande tectonique, de forte tectonique, et où on a donc à une profondeur tout à fait raisonnable des sources chaudes qui permettent d'utiliser cette énergie. On sait qu'en Islande, l'énergie géothermique est très bien utilisée, très bien développée. Pour notre pays, on ne devrait pas oublier que nous avons, pas en métropole, mais outre-mer, des zones semblables, et notamment les Antilles et la Réunion. Et à ma connaissance, la géothermie n'y est pas plus développée d'ailleurs que d'autres énergies renouvelables. Cette énergie-là, cette géothermie-là, est effectivement, à proprement parler, une énergie renouvelable. Il existe une autre géothermie qui est moins renouvelable, si l'on peut dire, c'est celle qui utilise la chaleur dans des aquifères. Donc celle-là, bon, c'est aussi une géothermie possible. Enfin, en termes de géothermie, on peut imaginer une géothermie profonde. Alors celle-là qui irait chercher à grande profondeur des roches chaudes, notamment dans des fossés tectoniques tels que le fossé Rhénan. Mais là, les recherches sont à faire. Elles portent aussi bien sur la géologie que sur la mécanique des roches et sur les incidences possibles au niveau des aquifères, au niveau des sols superficiels. Donc c'est dans le futur.
Autre énergie renouvelable, n'oublions pas la biomasse. Vous parliez au début de l'émission d'éthanol, donc en gros de canne à sucre au Brésil, mais il y a aussi l'utilisation d'oléagineux.
Oui, alors effectivement, la biomasse, on pourrait dire que c'est une énergie renouvelable utilisée, comme disait, je ne sais plus quel humoriste, depuis la plus haute antiquité, puisque le bois, c'est effectivement de la biomasse. Il s'agit d'utiliser l'énergie solaire et le gaz carbonique. On fabrique du bois, c'est la photosynthèse qui fait ça. Et ensuite, on utilise ce bois comme source d'énergie. Alors, actuellement, effectivement, l'idée est, une des idées de biomasse tourne autour de biocarburant, dans la mesure où on aura besoin de carburant liquide qui concentre sous une forme vraiment très réduite beaucoup d'énergie. Le Brésil, clairement, est en tête et assure une très grande part de sa consommation sous forme de bioéthanol. Bioéthanol pour lequel le meilleur produit, si je peux dire, la meilleure culture est celle de la canne à sucre. Le Brésil affirme que cette canne à sucre est produite dans le nord-est du pays, zone où elle était déjà produite autrefois, dans le centre et centre-sud, si je peux dire, également du pays, et qu'aucun défrichement de forêt n'est en cause pour produire cette canne à sucre et donc ce bioéthanol. Je dis cela parce que l'un des défauts, l'un des écueils que l'on peut imaginer pour les biocarburants, c'est évidemment d'aller contre la biodiversité.
Et qui prennent le pas sur écueils. L'alimentation.
Alors, d'autre part, vous avez évoqué donc les oléagineux. Effectivement, pour le biodiesel, je crois que c'est l'huile de palme qui est la bonne base pour le biodiesel. Et là aussi, il faut faire très attention de ne pas arriver à de nouvelles formes de colonisation par certains pays qui iraient en coloniser d'autres plus petits pour faire des champs de palmiers ou autres au détriment de cultures vivrières des populations locales.
Au cours de l'émission, on a parlé d'énergie nucléaire. Alors, on n'est plus dans les énergies renouvelables, mais elles représentent quand même, redisons-le, 80% de notre énergie électrique en France. Et il est question du nucléaire de quatrième génération. Est-ce que c'est dans un avenir proche? Est-ce que ce sera possible? Et faudra-t-il ouvrir de nouvelles centrales?
Alors, le nucléaire, déjà, il faut remarquer que dans la déclaration du G8, effectivement, l'énergie nucléaire a été reconnue comme... pour de nombreux pays, un moyen d'à la fois de traiter le problème du changement climatique, mais surtout de résoudre les problèmes d'approvisionnement en énergie. Avant d'arriver au nucléaire de quatrième génération, regardons la situation actuelle. La situation actuelle, c'est un parc, si nous prenons notre pays et les États-Unis, c'est un parc de centrales nucléaires. Aux États-Unis, des centrales qui avaient une licence d'exploitation pour 40 ans et qui ont obtenu la possibilité d'être prolongée jusqu'à 60 ans. En France, un parc de centrales qui avait une licence, une autorisation durée de vie de 30 ans, dont durée qui devait s'achever dans les toutes prochaines années, 2009-2010. dont il est question de prolonger la vie de 10, voire de 20 ans. Oui, mais vous voyez que par rapport aux États-Unis, de toute façon, nous étions déjà décalés, très prudents. Quels sont les problèmes ? Vous avez dit, effectivement, le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable, du moins pas pour l'instant, dans la mesure où il est dépendant déjà pour sa durabilité de l'approvisionnement en combustible et également dépendant de la résolution du problème des déchets nucléaires, donc le stockage et la gestion de ces déchets nucléaires. Donc nous sommes actuellement dans la phase de la troisième génération, c'est-à-dire les réacteurs EPR. Remarquons qu'en allongeant la durée de vie des centrales, on se donnera du temps, on se donnera du mou, si vous me pardonnez cette expression un peu familière, à la fois donc pour progresser dans le démantèlement des centrales, pour phaser le démantèlement de ces centrales qui arriveraient à échéance en même temps, et aussi pour la construction de ces nouveaux réacteurs type EPR, dont on sait que le coût avait été sous-estimé. On a eu un exemple par un réacteur finlandais. Donc ça, c'est la troisième génération. La quatrième génération, celle à travers laquelle on pourrait dire peut-être que le nucléaire deviendrait une énergie renouvelable, c'est la génération des réacteurs à neutrons rapides. Alors pour celle-là, on n'imagine pas qu'elle soit effective avant plusieurs décennies, parce que actuellement, les matériaux, si autant il n'y a pas de problème, disons, de théorique, de physique, autant les problèmes de construction, les problèmes techniques, les problèmes technologiques se posent. Les matériaux ne sont pas encore disponibles.
Pour résister à la chaleur, hein.
Pour résister à la chaleur, mais n'oubliez pas que ces matériaux sont soumis à l'irradiation. Et que c'est une chose très importante pour eux, parce que vous avez un matériau, une structure qui reçoit de l'énergie à travers des radiations et qui donc se modifie. Et ça, il faut être capable de maîtriser et de modéliser cela. Ces matériaux ne sont disponibles dans aucun pays. Disons que c'est de la métallurgie au sens large. Le Japon semble être en tête dans ces domaines-là. Et le Japon, d'ailleurs, mène ses recherches dans le cadre de la part qu'il s'est vu attribuer dans le projet ITER. La France a eu le béton, mais le Japon a eu les matériaux.
Pour terminer cette émission, venons-en quand même à une des solutions pour ce trop-plein de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. Une séance de l'Académie des sciences était consacrée à la capture et au stockage de CO2. On a également sur Canal Académie une émission avec Alain Bonneville consacrée au stockage du CO2. Nous invitons nos auditeurs internautes à télécharger cette émission. Que peut-on dire sur la faisabilité de la capture et du stockage du CO2 et de ces notions de coût?
Voilà. Capture et stockage du CO2, c'est la logique même, dans la mesure où on reconnaît que l'utilisation des énergies fossiles est inévitable dans les prochaines décennies, ne serait-ce que parce qu'il faut être réaliste, dans la mesure où vous avez des disponibilités, notamment de charbon, dans des pays comme la Chine ou pour l'Inde, eh bien ces pays ne se priveront pas de les utiliser. Et d'ailleurs, c'est clairement annoncé. Alors, la logique dans ce cas-là, face notamment à l'acidification des océans, qui est reconnue par tous, c'est de tenter de réduire l'impact de l'utilisation de ces énergies fossiles sur la production de dioxyde de carbone, du CO2. Réduire cet impact, l'idée, c'est de capturer, comme l'on dit, le CO2 à la production, de le transporter, parce qu'il ne faudra pas oublier qu'il y a du transport à faire, et de le stocker. La capture, disons qu'on a affaire à des techniques, un portefeuille de techniques qui sont relativement classiques et qui sont éprouvées. Un petit peu compliquées, mais éprouvées, qui sont consommatrices d'énergie, évidemment. Donc il faudra tenir compte du fait que rien que déjà cette capture va abaisser le rendement, que ce soit d'une centrale thermique, que ce soit d'une cimenterie, que ce soit d'un haut fourneau, pour citer que les trois exemples pris par la Chine. Ensuite, on devra transporter ce CO2, et ce CO2 seul, c'est-à-dire une fois qu'on aura bien purifié, on devra le transporter dans des lieux de stockage. Donc ce transport se fera évidemment par des pipelines qui seront à construire. Donc vous avez encore le coût, l'investissement de la construction, et vous aurez le coût énergétique du transport, de l'énergie à mettre pour transporter ce CO2 là où il sera stocké. Ensuite, vous avez à trouver le lieu de stockage. Alors, quels sont les lieux de stockage ? Ce sont principalement ce qu'on appellera des réservoirs avec ce mot franglais déplété, c'est-à-dire des réservoirs qui ont contenu du pétrole ou du gaz et qui sont en fin d'exploitation ou déjà complètement, qui ne sont plus exploités, qui sont épuisés. Et alors, puisque ces réservoirs ont contenu pendant des millions d'années des gaz sous pression, la bonne logique, c'est de se dire qu'ils pourront contenir encore pendant bien longtemps du CO2 sous pression. Donc, et vous voyez que ça permet d'ailleurs une réutilisation, une rentabilisation économique de ces réservoirs, puisque, bien évidemment, on aura un modèle économique pour ces lieux de stockage qui obéit à certaines règles de marché assez connues sous le nom de Hotline Type Model, Hotline Type Rules. Donc ça fait les coûts. Alors, si vous additionnez tous ces coûts, ce sont des coûts qui vont renchérir le coût de l'énergie. Donc, finalement, on ne peut pas être naïf. Il faut se dire que la faisabilité pratique du système, qui va dépendre évidemment aussi de l'acceptabilité sociale de ce stockage.
Mais serons-nous prêts à avoir ces puits sous nos pieds ?
Oui, en général, on n'aime pas tellement l'avoir dans son jardin. C'est « not in my backyard », c'est très, très connu. « Jardin du voisin », c'est très bien. Et donc, ce n'est pas une garantie d'avance. Et disons que les analyses actuelles, même en mettant de côté l'acceptabilité sociale, en la supposant acquise, les analystes actuels sont en général prudents et voient une rentabilité de cette capture du CO2, qu'on appelle CCS, dans l'ordre d'une vingtaine d'années. C'est le cas de Geoffrey Hill, par exemple.
Oui, donc vous ne m'avez pas répondu à mes questions, Jean Salençon. Est-ce que ce sera possible dans les années à venir, ce stockage de CO2 ? Il est déjà effectif dans certains pays.
Alors,
et là-dessus, c'est développé.
Ce que je vous ai dit, c'est que la rentabilité, enfin la compétitivité, face, il faut voir qu'en fait, actuellement, les modèles économiques, c'est très simple, c'est qu'on compare des coûts dans telle ou telle hypothèse. Actuellement, on peut stocker le CO2 ou bien on peut payer pour l'émettre. Tant que le coût du stockage sera supérieur au coût de ce qu'on doit payer pour émettre, eh bien, on continuera d'émettre. Donc, vous voyez que là, les mesures incitatives ont déjà une très grande importance. Il faut une juste évaluation du coût social et il faut que ces mesures soient appliquées à l'échelle globale pour éviter les distorsions de concurrence. Alors, il y a une question de faisabilité néanmoins. Vous avez raison de la poser. On ne dispose pas actuellement de réelles installations à l'échelle 1. À ma connaissance, il y a une installation qui a été ouverte il y a un an, en 2008, en Allemagne. On peut dire qu'elle est à l'échelle 1, mais 1 moins, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est une petite installation qui a été mise en place en Allemagne. On n'a pas encore vraiment la démonstration pratique, réelle, en vraie, vraie grandeur, si je peux dire, du fonctionnement.
Parce qu'il existe quand même des centrales de stockage au Danemark, je crois, ou en Algérie.
Alors,
à moins que ce ne soit pas forcément les mêmes.
Ce n'est pas la même chose. Oui, il existe en Algérie, notamment, je crois que c'est à Insala, il existe un stockage. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que c'est au même endroit et on stocke, si mes souvenirs sont bons, du CO2 qui est extrait de gaz qui sont eux-mêmes extraits. C'est-à-dire qu'on purifie le gaz et on stocke le CO2. Donc on n'a pas, le problème du transport ne se pose pas. On n'est pas dans les mêmes conditions, hein, ni de la capture non plus. Donc ce n'est pas vraiment le même problème. Un autre stockage qui existe, dont je n'ai plus le lieu en tête, utilise en fait le CO2 pour... Il est stocké dans un gisement qui est encore en cours d'exploitation, un gisement de gaz.
Et qui permet de pousser.
Pour augmenter le rendement. D'accord. Disons que là, on n'a pas vraiment des cas d'école, on a des cas spécifiques. Donc je pense que celui auquel je faisais allusion, en Allemagne, c'est à Vattenfall, celui-là, même s'il n'est pas vraiment à l'échelle 1, il correspond à une installation industrielle telle qu'on l'évoquait au départ.
Et pour en savoir plus, on invite nos auditeurs à venir à la conférence, aux conférences des leçons inaugurales de l'École des Ponts et Chaussées. Votre conférence s'intitule « Des enjeux énergétiques réalistes pour les prochaines décennies ». Vous intervenez le 27 août et les conférenciers suivants interviennent les jours suivants, donc le 28 août, les 2, 3 et 4 septembre 2009. Merci Jean Salençon de nous avoir présenté votre conférence, de nous l'avoir présentée en détail. Et puis à bientôt pour nos auditeurs sur Canal Académie et peut-être à l'école des Ponts et Chaussées. Et j'ajoute que Canal Académie est partenaire de cet événement et que nous retransmettrons l'intégralité des conférences de ces leçons inaugurales. Merci Jean Salençon.
Merci à vous.
Et à bientôt. Au revoir.
À bientôt.